Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La Terre de chez nous, La Conversation et Relations. Au programme, des carottes surgelées importées de la Pologne, pour en finir avec le harcèlement contre les femmes en politique et vivre sans statut au Québec. Bonne écoute.
Des carottes surgelées importées de la Pologne, texte de Caroline Morneau, paru dans l'édition du 20 décembre 2022 de La Terre de chez nous. Une étude de marché exploratoire sur la provenance des fruits et légumes transformés, servis dans des hôpitaux et des centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, de Montréal, montre que les carottes surgelées sont majoritairement importées de la Pologne et les oignons de la Chine. On voulait corréler l'étude au potentiel de marché pour les producteurs québécois. On s'attendait à ce que des produits soient importés, mais que des légumes comme la carotte et l'oignon, qu'on cultive abondamment ici, viennent de Pologne et de Chine, ça, on a été très étonnés. A fait valoir Mario Lalancette, directeur de la stratégie et des communications à l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes, AQDFL, l'organisation derrière l'étude réalisée entre mars 2021 et janvier 2022. Les résultats ont été présentés lors de l'Assemblée générale annuelle des producteurs de légumes de transformation du Québec le 7 décembre à Longueuil. En entrevue avec La Terre de chez nous, M. Lalancette a expliqué que l'échantillonnage ciblé équivaut à 86 % des lits dans les établissements de santé publique de l'île de Montréal. Des listes d'achats ont notamment été analysées par l'entremise du Centre d'acquisition gouvernementale qui reçoit les besoins des institutions pour les appels d'offres. Des questionnaires ont aussi été envoyés dans les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux de la métropole. Les principaux fruits et légumes surgelés qui y ont été achetés entre novembre 2020 et 2021 sont des carottes, 373 tonnes, des oignons, 177 tonnes, des macédoines de légumes, 152 tonnes, des brocolis, 121 tonnes, des pommes de terre, 111 tonnes, et des haricots verts, 92 tonnes. Si les pommes de terre proviennent surtout du Canada, selon l'étude, plus de 90 % des carottes surgelées sont importées de la Pologne. 98 % des oignons de la Chine et 80 % des brocolis de l'un ou l'autre de ces deux pays. Pour ce qui est des macédoines de légumes et des haricots verts surgelés, environ la moitié vient du Canada, mais une forte proportion est également importée de Pologne, de Chine ou de Belgique. J'aimerais travailler avec vous. Je suis surpris des chiffres qui sont sortis, a réagi au micro le directeur général de Norterra, Daniel Vielfort, après la présentation du rapport. « Vous me parlez de carottes de la Pologne? Je n'ai jamais entendu parler de ça. On en fait des carottes surgelées. Il y a certainement des choses à analyser et à comprendre », s'est-il étonné. Toujours selon l'étude, l'approvisionnement en fruits et légumes transformés servi dans les établissements de Montréal est surtout guidé par les prix. Du côté des légumes frais qui sont lavés, coupés ou pelés d'avance, par ailleurs, le rapport fait état de la durée de vie des produits du Québec et des formats qui ne correspondraient pas aux besoins des institutions de santé. Quand on a demandé aux établissements si l'achat local était important, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'enthousiasme, Mais je pense qu'il faut aussi voir des opportunités de marché pour le Québec et des choses à améliorer, a ajouté M. Lalancette en entrevue, rappelant aussi que l'échantillon cible seulement Montréal et que des données collectées dans les établissements de santé de l'ensemble du Québec apporteraient peut-être des résultats différents. Un projet d'étude en ce sens, afin de mieux déterminer les besoins à travers la province, est d'ailleurs envisagé par l'AQDFL. Vous venez d'entendre lecture d'un article intitulé « Des carottes surgelées importées de la Pologne », texte de Caroline Morneau, paru dans l'édition du 20 décembre 2022 de « La terre de chez nous ».
Pour en finir avec le harcèlement contre les femmes en politique. Un texte de Tracy Rainey, paru le 13 novembre 2022 dans le magazine La Conversation. Voilà 5 ans, des femmes du monde entier ont commencé à divulguer publiquement sur les médias sociaux leurs expériences d'agression et de harcèlement sexuel en utilisant le mot-clic MeToo. Moi aussi. Cet anniversaire nous donne l'occasion de réfléchir à la manière dont le Canada a géré son propre mouvement « Mot-clic, moi aussi » et plus précisément la misogynie dans la politique canadienne. Les événements de 2017 sont survenus 11 ans après la fondation du mouvement « Mot-clic, MeToo » par Tarana Burke, qui cherchait à sensibiliser la population à la violence que subissent les femmes et les filles noires aux États-Unis. Le mot-clic MeToo est devenu viral en octobre 2017 après que des allégations d'inconduite sexuelle contre le magnat d'Hollywood Harvey Weinstein ont été rendues publiques. 5 ans plus tard, que savons-nous au sujet de la violence sexiste qui sévit dans le monde politique au Canada? Tout d'abord, la violence et le harcèlement n'ont pas diminué. Ils se sont même plutôt intensifiés dans le milieu politique canadien. En réaction aux menaces croissantes et aux préoccupations en matière de sécurité des membres du Parlement canadien, le ministre de la Sécurité publique a annoncé en juin 2022 que tous les députés allaient recevoir des boutons d'alerte pour leur sécurité personnelle. Lors des élections fédérales de 2021, l'analyse des gazouillis reçus par les candidats sortants et les chefs de parti effectuée par le Centre Samara pour la démocratie montre que 19 % de ces messages étaient malsains, c'est-à-dire qu'ils étaient incivils, insultants, hostiles, menaçants ou grossiers. Si les politiciens de tous horizons sont pris pour cible, les femmes, les Autochtones, les Noirs, les personnes racisées et les queers sont les plus touchés par les attaques contre la démocratie canadienne. Agression contre Chrystia Freeland. En août 2022, un homme a interpellé la ministre des Finances Chrystia Freeland et son entourage composé uniquement de femmes devant un ascenseur de l'hôtel de ville de Grande Prairie en Alberta et lui a lancé des insultes et des jurons. Cet incident a incité d'autres politiciennes à parler du harcèlement qu'elles subissent. La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a fait part sur Twitter du harcèlement qu'elle a vécu, tandis que Marois Risky, députée libérale du Québec, a révélé publiquement le harcèlement et les menaces dont elle a fait l'objet récemment. À l'automne, Mme Risky a reçu des menaces de mort, notamment de la part d'un homme qui aurait appelé la police pour lui indiquer où se trouvait son cadavre. Elle était alors enceinte. Quelques semaines plus tard, des gens ont lancé une campagne de harcèlement en ligne visant des femmes journalistes, dont plusieurs qui sont racisées. Menaces violentes. Dans tous ces cas, les harceleurs ont eu recours à un langage, à des images ou à des accessoires violents, misogynes ou racistes pour rabaisser, intimider et menacer leurs cibles. Nous avons également appris que certains dirigeants politiques semblent prêts à utiliser la haine inscrite dans notre culture politique à des fins partisanes. En octobre 2022, Global News a rapporté qu'un mot-clic misogyne caché avait été inséré dans 50 des plus récentes vidéos YouTube du chef conservateur Pierre Poilievre. Le mot-clic MGTOW pour « Men Going Their Own Way » ou « Hommes qui choisissent leur propre chemin » fait référence à un mouvement antiféministe en ligne qui prône la suprématie masculine. Lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, M. Poilievre a dit condamner toutes les formes de misogynie, mais n'a pas présenté d'excuses. Silence et exclusion. Des études démontrent que lorsque des femmes politiques, des employés, des militantes et des journalistes sont victimes de harcèlement simplement parce qu'elles sont des femmes, cela constitue une menace pour la démocratie. Mona Lina Crook, politologue à l'Université Rutgers, a affirmé que l'objectif de la violence contre les femmes de la sphère politique est de les réduire au silence et de les exclure de la vie publique. Comme l'indiquent mes recherches menées en collaboration avec Cheryl Collier de l'Université de Windsor, la violence et le harcèlement constituent des obstacles à la participation des femmes à la vie politique canadienne et sapent les valeurs démocratiques telles que la parité dans la représentation et la participation. Après l'élection fédérale de 2021, les femmes détenaient 30,5% des sièges à la Chambre des communes. Aujourd'hui, le Canada se classe 61e sur 190 pays en matière de représentation politique des femmes. Des avancées. Heureusement, les femmes canadiennes bénéficient de certaines avancées. En 2018, le gouvernement libéral fédéral a adopté le projet de loi C-65 qui actualise et renforce la législation existante pour prévenir et combattre le harcèlement et la violence dans tous les lieux de travail sous réglementation fédérale. Cela inclut le Parlement. En 2021, en réponse au projet de loi C-65, la Chambre des communes et le Sénat ont mis à jour leur politique pour prévenir et traiter la violence et le harcèlement. Depuis le mouvement MoClic, moi aussi, de nombreuses assemblées législatives provinciales et territoriales ont également adopté des codes de conduite ou des politiques pour lutter contre le harcèlement sexuel. Bien que ces politiques et ces codes ne suffisent pas et que des mesures supplémentaires soient nécessaires, l'attention des médias et du public depuis MoClic, moi aussi, sur le harcèlement et la violence au travail a suscité des changements au sein de ces législatures. Mais cela ne suffit pas. Les ententes de confidentialité dans les cas de harcèlement et de violence doivent être interdites dans toutes les organisations et sur tous les lieux de travail, y compris dans les assemblées législatives. Cependant, l'interdiction de ces ententes ne suffira pas non plus à mettre fin aux comportements non éthiques. Comme le montrent mes recherches avec Mme Collier, les institutions politiques, qui demeurent principalement blanches, cisgenres et dominées par les hommes, doivent en faire davantage pour éradiquer leur culture sexiste et d'exclusion. Les législateurs doivent adopter des stratégies visant à perturber les réseaux de complicité qui protègent les puissants et permettent les comportements abusifs. Des processus totalement impartiaux et transparents qui traitent toutes les formes de violence et imposent des sanctions sérieuses aux auteurs de violence ou de harcèlement sont nécessaires. La démocratie attaquée. Il convient également d'aborder le harcèlement des journalistes, des candidats politiques, des employés et des élus par une petite faction du public. Une attaque contre un responsable politique doit être considérée comme une attaque contre la démocratie canadienne et ne devrait pas être tolérée dans une société libre et démocratique. Enfin, les partis politiques doivent améliorer le recrutement et l'élection de personnes d'origine diverse à des fonctions publiques. Au moment du 10e anniversaire du mouvement MoClic, moi aussi, en 2027, la démocratie canadienne sera, espérons-le, renforcée par les mesures que nous prenons aujourd'hui pour mettre fin à la violence et au harcèlement en politique. C'était « Pour en finir avec le harcèlement contre les femmes en politique », un texte de Tracy Rainey, paru le 13 novembre 2022, dans le magazine « La Conversation ».
Vivre sans statut au Québec, un dossier publié dans le numéro Hiver 2022-2023 de la revue Relations, signé Catherine Caron, avec la collaboration de Mouloud Idir. Des milliers de personnes migrantes vivent sans statut au Québec. Leur quotidien est hanté par la peur d'être déporté et marqué par les abus, l'exploitation et l'absence de droits. Il leur faut être héroïques Pensons aux anges gardiens pendant la pandémie. Pour que l'on daigne, parfois, améliorer leur sort, cela sans voir le brave combat qu'elles mènent chaque jour. Souvent invisibilisées, leur situation découle de politiques migratoires néolibérales et utilitaristes qui les privent d'une vie digne et d'une citoyenneté pleine et entière, comme c'est le cas de tant d'autres personnes ayant un statut migratoire précaire. Comment cela s'explique-t-il et qui en profite? Comment comprendre ce manque d'hospitalité et d'égalité au sein de notre société, malgré tous les engagements de nos États en matière de respect des droits de la personne? Ce dossier se penche sur ces problèmes et sur certaines des voies pour y remédier. Au détour d'une rue de l'un des plus anciens quartiers de la ville de Sherbrooke, sur la façade de l'église Plymouth Trinity, une banderole attire le regard. Elle nous apprend que cette église tient lieu de sanctuaire depuis plus d'un an à trois membres de la famille Rodriguez-Flores qui s'y sont réfugiés le 8 novembre 2021 sans pouvoir en sortir depuis. Leur demande d'asile ayant été rejetée en appel, cette famille, désormais sans statut, essaie ainsi d'échapper à son expulsion vers le Mexique, où Georgina, Manuel et leur fils craignent pour leur vie. Ils sont venus se réfugier au Canada en 2018 afin de fuir les menaces d'un cartel de la drogue mexicain. Leur histoire, médiatisée grâce à un regroupement citoyen solidaire, ressemble à beaucoup d'autres, parfois moins dramatiques, mais toutes intolérables. Car est-il normal, dans une société démocratique, que des personnes migrantes vulnérables, étant venues refaire leur vie ici, subissent pareille épreuve? Est-il acceptable que des milliers de personnes sans statut soient exclues de la citoyenneté et de l'appartenance à notre monde commun, sans accès aux droits les plus fondamentaux? Celui de se faire soigner, voire d'accoucher sans devoir payer des frais exorbitants, ou celui d'avoir un travail légal et décent à l'abri de l'exploitation? La pandémie a exposé crûment ce que l'absence de filet social et le déni de droits ont signifié pour ces personnes qui ont déjà la peur, l'insécurité et l'abus comme compagnons d'infortune. Après des décennies d'inaction, sous les pressions croissantes des groupes de défense des droits et libertés et des personnes migrantes, il faut se réjouir que le gouvernement fédéral prépare enfin un programme très attendu de régularisation des personnes sans statut, comme il s'en fait régulièrement dans plusieurs pays. Celui-ci aura-t-il la dimension inclusive et historique tant espérée? Une portée large qui permettrait d'améliorer aussi le sort de trop de personnes migrantes ayant certes un statut, mais souvent si précaire? Au moment d'écrire ces lignes, fin octobre, cela reste à voir. S'il existe des sans-papiers autour de nous, c'est que nos sociétés en fabriquent et en ont besoin, plus qu'elles ne l'admettent. Les causes structurelles de cette réalité que nous analysons dans le présent dossier, qui fait suite à « Nouveaux visages de la migration », publié en 2007, on peut changer depuis. D'un pays d'immigration permanente, le Canada est devenu, depuis les années 2000, un pays priorisant une immigration temporaire soumise à de nombreuses conditionnalités, et ce, souvent, sans accès à la résidence permanente. Il accueille de plus en plus de travailleurs et de travailleuses migrants temporaires œuvrant dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et des services sociaux, des services de sécurité ou de l'entretien, notamment. L'approche utilitariste de la migration, centrée sur les besoins du marché, a supplanté une approche d'accueil plus ouverte des personnes migrantes. Cette tendance mondiale, porteuse d'injustices, multiplie les statuts précaires ainsi que les situations d'absence et de perte de statut. Elle inspire un slogan torpille visant à faire éclater l'hypocrisie ambiante. Assez bon pour travailler, assez bon pour rester, scandent les sans-papiers mobilisés dans les manifestations pan-canadiennes qui se multiplient depuis l'été dernier pour exiger un statut pour toutes les personnes vivant au Canada. Ces dernières années, à la faveur de la montée de courants nationalistes, conservateurs et d'extrême droite, la tendance à ce que le regretté philosophe Étienne Tassin appelait la politisation de la xénophobie s'est clairement accentuée. Comme il le disait si bien, cette politisation prend forme dans la systématisation des contrôles aux frontières, les politiques migratoires restrictives et contraignantes, les luttes contre l'immigration illégale, les expulsions ou les internements dans des camps pour les sans-papiers. L'étranger a certes toujours fait peur, mais la peur de l'étranger semble aujourd'hui commander les politiques internationales autant que nationales. Le migrant non sélectionné serait un danger. Tout étranger, un ennemi potentiel. L'étranger incarne une redoutable dissidence qui suscite la peur. De fait, le migrant non sélectionné est assez rare au Canada et au Québec, deux entités politiques qui choisissent la vaste majorité des nouveaux arrivants et ne voient pas arriver régulièrement à leurs frontières des bateaux de migrants comme on en voit en Europe. La population d'ici est habituée à cela, et la moindre brèche dans cette quasi-forteresse, comme celle créée par l'arrivée légale, mais irrégulière, de demandeurs et demandeuses d'asile par le chemin Roxham, ces dernières années, cause un malaise, reflet du problème que pointe Tassin, ce qui ne signifie pas qu'aucune solidarité ne soit au rendez-vous. La nature des débats qui ont cours au Québec au sujet de l'immigration et des sans-papiers reflète aussi cette politisation de la peur de l'étranger. Les déclarations xénophobes et mensongères du ministre de l'Immigration et du premier ministre François Legault lors de la dernière campagne électorale l'ont bien montré. Pensons aussi à la propension de ce dernier à distinguer les anges gardiens essentiels des soi-disant non-essentiels, lire moins qualifiés, comme il l'a fait durant la pandémie, estimant que les uns méritait la résidence permanente et pas les autres. Sans surprise, dans le processus devant mener à un programme fédéral de régularisation des sans-papiers, ce gouvernement constitue de manière déplorable une force de blocage pouvant nuire aux avancées possibles. Pensez, comme le font Legault et le courant nationaliste conservateur, que cette attitude excluante marqué par un triste déficit d'empathie, soit nécessaire à la cohésion nationale et à la survivance du français au Québec, est un leurre. Plusieurs politiques inclusives peuvent très bien façonner cette cohésion en protégeant la langue, pour peu qu'on y mette vraiment de la volonté, de l'ouverture, des ressources et de la compétence, ce qu'on ne fait pas. Mais le plus inquiétant est le refus de comprendre qu'il n'y a pas d'avenir dans une société dont le confort consumériste est en grande partie fondé sur l'exploitation d'autrui, sur un racisme systémique et sur des dispositifs répressifs qui vont jusqu'à la détention de personnes sans statut, traitées injustement comme des criminels, cela dans l'indifférence générale. Nous pouvons collectivement mettre le Québec et le Canada sur une autre trajectoire. Qu'attendons-nous pour concrétiser les droits humains reconnus aux individus, quel que soit leur statut, en vertu de nos chartes et du droit international? Pour faire en sorte que tout être humain dispose des mêmes droits ou qu'ils vivent? Une telle perspective requiert la régularisation urgente des sans-papiers et des personnes migrantes précarisées, ainsi que le respect des engagements des États en matière de droits humains. Elle exige aussi la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Adoptée à l'ONU en 1990, elle n'a encore été ratifiée par aucun pays d'accueil d'immigration occidentale. C'est dire l'ampleur des transformations idéologiques, politiques et structurelles à opérer pour sortir des logiques capitalistes et néocolonialistes. Sans être parfaite, cette convention contraindrait le Canada à reconnaître que les personnes migrantes, même temporaires, font partie intégrante de la société et que leurs droits ne peuvent être brimés comme ils le sont actuellement, au point où plusieurs, au Québec, préfèrent abandonner leur emploi temporaire, les conditions aliénantes et le statut précaire qui viennent avec, pour devenir des sans-statut. Vous venez d'entendre « Vivre sans statut au Québec », un dossier publié dans le numéro hiver 2022-2023 de la revue Relations, signé Catherine Caron, avec la collaboration de Mouloud Idir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Luc Mercure à la lecture, Pierre Duclos et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.